Vous écoutez Les Jeux dans leurs yeux, la série consacrée aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Un podcast produit par Miro Media, le média qui croise les regards autour des grands événements sportifs et culturels, diffusé sur Radio Campus Paris et à retrouver sur nos réseaux sociaux. Cet épisode sera présenté par Violette Brunet.
Il n'y a pas d'endroit dans le monde où l'homme est plus heureux que dans un stade de football. Tels sont les mots d'Albert Camus, écrivain français de renom et grand passionné de football. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 nous ont prouvé que cette citation dépasse le simple spectre du sport roi. L'ambiance mise tout au long de ces Jeux a rappelé à tous l'importance des supporters, acteurs à part entière du sport. Des JO aux Paras, partout d'une même voix, les supporters français et étrangers ont encouragé leurs athlètes dans une ferveur populaire endiablée. Edith Piaf, Johnny Hallyday, Charles Aznavour et Jo Dassin ont fait de Paris un karaoké à ciel ouvert. Chaque stade s'est transformé, le temps d'un instant, en véritable arène où des athlètes de toutes les disciplines et de toutes les nationalités ont ensemble célébré le sport. Dans des sites de compétition sublimes, les drapeaux de femmes et d'hommes venus de tous les horizons ont coloré ces Jeux, volontairement hors des murs des enceintes habituelles. Bonjour à tous les deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Cybèle Leclerc, tu es designer chez Thalès et tu as été volontaire, opérateur litige tribune épreuve épique à Versailles. Et Nicolas Hud, tu as été de ton côté fondateur, enfin tu es fondateur de Stadium Traveler, qu'on appelle le TripAdvisor des stades, qui est pensé pour faciliter l'expérience spectateur dans les enceintes sportives. Donc aujourd'hui sur Miromédia et Radio Campus Paris, vous allez croiser vos regards autour du thème du supporterisme et de la ferveur lors de ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et enfin, la conclusion de cet épisode sera assurée par Malo Bernard, fondateur de Sold Out, qu'on surnomme le Too Good du sport et qui a comme ambition de repenser le système des billetteries sportives en France. Donc je vais me tourner vers toi, Cybèle, pour commencer. En tant que bénévole opératrice litige, en quoi consistaient tes missions ?
En fait, moi, je suis cavalière. J'ai fait de l'équitation pendant plus de 10 ans, je crois, 15 ans. Je voulais vraiment assister aux JO, je voulais voir les épreuves hippiques. Sauf qu'on l'a bien vu, ça coûtait hyper cher, les billets. Et je me suis dit, quitte à vivre cette expérience, autant la vivre à l'intérieur. J'avais aucune garantie d'être en tribune, évidemment. J'aurais très bien pu être bénévole sur une toute autre mission. Et donc, nous, notre mission, c'était, avec l'équipe de billetterie, de s'assurer que tout le monde était bien placé au bon endroit. Et surtout, en fait, tout ce qui est litige, donc se retrouver avec des personnes, par exemple, qui ont des billets qui ne sont pas côte à côte. Donc voilà, les replacer côte à côte, notamment des mineurs qui peuvent être séparés de leurs parents, des personnes qui auraient eu des accidents entre le moment où ils ont acheté leur billet et le moment où ils se rendent sur le lieu des JO. Du coup, les replacer à un endroit qui sera plus accessible pour eux. Donc voilà, gérer tout ce genre de litige. Et donc du coup faire en sorte que tous les spectateurs en tribune aient une bonne expérience et soient placés au bon endroit avec les bonnes personnes.
Est-ce que du coup tu as eu l'occasion et l'envie surtout d'aller sur d'autres sites ? Est-ce que tu as pu découvrir d'autres disciplines, d'autres ambiances durant ces Jeux ?
Alors moi j'aurais adoré voir d'autres sites parce que effectivement quand tu vois le site de Versailles mais que tu vois à la télé celui de la Tour Eiffel et celui du golf qui avait l'air incroyable aussi. En fait, quand tu vois les autres sites, tu te dis « j'aimerais trop y aller ». J'ai pas pu parce que mission volontaire, donc du coup, j'avais pas prévu en fait que ça me prendrait autant de temps. J'aurais adoré voir d'autres sites. Les autres sites, ils avaient l'air incroyables, surtout ceux dans Paris. C'est vrai que Versailles étant un site éloigné comme celui du golf, tu profites pas exactement de la même expérience. C'est vraiment une expérience sur mesure des transports jusqu'au site. Mais t'as pas ce déambuler dans Paris, voir la flamme olympique, voir la vasque, tout ce genre de choses. Du coup, nous, on ne profitait pas de cette expérience et c'est vrai que j'aurais adoré la vivre. Et du coup, je regardais les épreuves à la télé quand je rentrais le soir avec mon copain, on se posait, on regardait soit le tennis de table, soit l'athlétisme, parce que l'athlétisme, trop cool. Donc voilà, j'aurais quand même adoré les voir. C'était incompatible avec mon emploi du temps, mais...
Oui, tu n'as pas eu l'expérience de spectatrice en plus d'être bénévole. Ouais, c'est sûr.
En fait, je l'ai eu, mais les jours où j'étais off, où du coup, je retournais quand même sur le site de Versailles, notamment le dernier jour, parce que moi, le tout dernier jour des épreuves, j'étais off, et mes super managers de billetterie m'ont dit « Allez, viens, au moins pour le dernier jour, en spectatrice. » Mais voilà, c'est tout. C'est ma seule expérience de spectatrice, c'était là où j'ai été bénévole. Donc.
Nicolas, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux présenter un peu, toi, ton application et ton... ton... ton implication dans le supporterisme en France.
Tout à fait. Stadium Traveler, en fait, c'est la plateforme qui recense toutes les infos pratiques à connaître sur tous les stades du monde entier, donc principalement foot, mais aussi rugby désormais. Et maintenant, on tend à s'étendre vers tout type d'événements qui peut se dédier dans un stade, en fait. Et notre but, en fait, c'est de recenser tous les bons plans, tous les conseils, en fait, comment on y vient, comment acheter des billets, quels sont les modes de transport, s'il y a des offres sur les transports en commun, quels sont les parkings, est-ce qu'il y a de bonnes adresses. Voilà, donner en fait toutes les informations qu'on n'a pas forcément, si on ne connaît pas, on peut vite être perdu. C'était parti tout simplement d'un constat personnel sur un match à Dortmund, qui est un des stades les plus historiques en Europe, et où ça a été hyper compliqué de comprendre le système de parking, le système allemand pour la restauration, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de plateforme qui recensait toutes ces informations-là. Donc c'est une plateforme qui recense tout ça, qui crée une communauté d'entraide et de partage où chacun peut suivre la collection de tous les stades qu'il a fait et ajouter en fait tous les matchs qu'il a vus, le partager à ses amis et se partager des bons plans, des conseils, des retours d'expérience en fait entre passionnés.
Ok, et du coup pendant les Jeux, tu as eu l'occasion de visiter plusieurs sites et stades, j'imagine. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué en particulier dans tout ce cheminement
C'est vrai que les JO, pour le coup, c'était un exemple assez incroyable de lieux qui ont été pensés pour le spectateur et toute l'expérience était intégralement incroyable, du fait forcément aussi des bénévoles, où ça apporte du coup plein de personnel autour des lieux qui aident, qui aident une expérience optimale. Mais c'est vrai que je pense que le plus impressionnant, ça reste devant la Tour Eiffel, sur le beach volley, là, c'était un lieu exceptionnel. Pour les entrées, il fallait comprendre, mais en fait, après, c'est tout un chemin qu'on suit petit à petit. Et une fois qu'on est dans le lieu, c'est juste magnifique de voir le lieu, d'être au cœur de l'histoire de la France, en fait, et de vivre le lieu sportif avec des tribunes adaptées, des restaurations, etc. Tout a été pensé. Donc ça, je pense, pour le coup, c'était quand même le lieu le plus incroyable qu'ils ont réalisé.
Et donc, dans l'ensemble, tu trouves que la signalétique a été bien mise en place, que c'était facile de se repérer dans les sites et les enceintes sportives?
C'était exceptionnel, parce que pour le coup, Paris vivait 100% pour les JO. On le sentait qu'il y avait la signalétique partout. Même, j'ai souvenir que même si on prenait n'importe quel métro dans Paris, directement, on avait au moins un bénévole ou un panneau qui nous indiquait. Donc en fait, c'était impossible de se perdre, c'est impossible de se tromper. Et je pense quand même des touristes qui n'ont pas l'habitude ou qui avaient peur ou quoi que ce soit, c'était impossible de se tromper sur ces JO.
Et je vais revenir plutôt maintenant sur l'ambiance. Donc toi, Cybèle, qui a été, comme tu dis, en plein cœur des tribunes, est-ce que tu as observé vraiment quelque chose chez les spectateurs, notamment chez les spectateurs, on sait que les spectateurs de compétition hippique, c'est pas forcément les mêmes que pour le football, le rugby. Est-ce que toi, il y a vraiment un truc qui t'a marqué au niveau de l'ambiance? T'étais en plein dedans, donc il devait y avoir une effervescence.
Comme tu dis, l'ambiance sur des jeux hippiques, c'est vraiment différent parce qu'on n'est pas sur une ferveur où on va crier à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Au contraire, c'est toujours très calme parce que l'équitation, forcément, on a un cheval. Et un cheval, ça réagit à beaucoup de stimuli. Et justement, j'ai trouvé ça impressionnant de voir que, mine de rien, il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient là, pas parce qu'ils désiraient voir des épreuves épiques spécialement, mais parce qu'ils voulaient juste vivre les JO, et que c'était proche de chez eux ou toute autre raison, et qui, en fait, se sont conformés aux règles qui leur ont pas été imposées, mais qui leur ont été insufflées par l'ambiance générale. De voir que pendant le dressage, personne ne parle, que les gens applaudissent quand il y a le salut de fin du cavalier, pendant les obstacles, que les gens évitent de faire des commentaires pendant qu'il y a le saut, et que pareil, ça se fait au dernier obstacle. Donc il y a vraiment en fait toutes ces règles-là un peu qu'on se dit pas parce que nous, on les connaît en tant que cavalier, mais tous les spectateurs qui n'y connaissent rien, finalement se sont pliés très très vite à ces règles-là, et j'ai trouvé ça hyper impressionnant parce que à aucun moment il y a eu des ferveurs qui étaient mal placées par rapport justement à des épreuves épiques qui sont hyper spécifiques en termes d'ambiance. Et au contraire, entre deux épreuves, là, il y avait toute la ferveur qui ressortait, plein d'animations, les gens dansaient, applaudissaient, enfin voilà.
Pour rebondir, c'est vrai que je vois des différentes expériences que j'ai eues dans différents sports, c'était que c'était adapté 100% à chaque sport. Et on voit du coup en sport hippique où du coup ça respectait les calmes, etc. En beach volley et en volleyball, où il y avait des actions spéciales, de chants spécifiques selon des actions, où les gens se prenaient au jeu. Et en fait, au bout d'une 20 minutes, on a tous le chant en tête que s'il y a un smash, c'est tel chant, que s'il y a un tel point, à chaque fois c'était adapté. Donc en fait, pour chaque sport, c'était super bien adapté, ce qui crée une ambiance complètement différente. Et même si on vient qu'on ne connaît pas les règles, de toute façon, en fait, au bout d'une demi-heure, on est dedans et on est à fond.
Puis les gens se parlaient, en fait. Mine de rien, les spectateurs parlaient entre eux. Et ce qui faisait que, comme tout le monde venait pour vivre un événement, vivre une expérience, tout le monde se parlait. Donc, ça aidait beaucoup.
Si tu devais, Nicolas, noter les stades et sites des JO sur ton propre site, sur quoi tu mettrais la meilleure note? Est-ce que, du coup, c'est sur le site de la Tour Eiffel, comme tu m'as dit?
Sur la meilleure note, je dirais quand même pas la Tour Eiffel, parce que c'était quand même le plus dur, finalement, quand même pour y accéder. parce que il y a beaucoup de contraintes techniques autour de la Tour Eiffel, donc pour les accès, c'était pas le plus simple. Mais ça, typiquement, en exemple peut-être d'un des meilleurs que j'aurais fait, je pense, c'est le golf national, qui était très en dehors de Paris. Mais ça, c'était impossible de se rater, parce qu'en fait, n'importe quelle gare où on allait prendre un train qui était dédié, à peine on sortait de la gare, il y avait directement des barrières qui nous emmenaient à la bonne navette. On avait la navette pendant 20 minutes, on arrive, il fallait marcher 30 minutes le long de barrière. En fait, on partait à 2 heures de Paris en dehors, mais sans aucune galère, et en n'avant pas du tout à réfléchir en fait, on n'avait même pas besoin de maps, rien du tout. On avait juste à pied à suivre, il y avait des bénévoles, il y avait des barrières, il y avait des panneaux, et on se retrouve au Golf National qui est plutôt loin de Paris. Donc ça, je pense typiquement, c'est un exemple parfait de tout était pensé de A à Z, on n'a pas attendu une navette, rien. Château de Versailles, c'était à peu près pareil aussi sur les sports hippiques, enfin on arrivait à peine à la gare, tout de suite, aucun n'était dirigé, il y avait une navette, on arrivait, on marchait, enfin aucune question à se poser, et ça c'était vraiment impressionnant, parce que c'est les lieux normalement les plus compliqués à faire comprendre aux personnes comment se déplacer, etc. Et donc, entre la signalétique et les bénévoles, c'était quand même c'était impossible de se rater. Donc, je pense que la meilleure note irait sûrement au Golf National.
Et pour finir, je vais finir avec une dernière question. Est-ce que vous avez l'image d'un supporter qui vous reste en tête après ces Jeux, toi, en tant que bénévole ? Est-ce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, une réaction, un regard ou un moment même ?
Honnêtement, moi, j'en ai plein. Je vais un peu dans les coulisses de ce qui se passait, mais très souvent, les jours où on avait des Français qui allaient concourir, on installait des zones, des fan zones, où on mettait un drapeau français, on mettait des petits trucs pour claquer les mains, etc. Et donc, il y avait des zones comme ça qui étaient dédiées où on essayait de mettre des Français, des étrangers, mais avec que des trucs français. Et en fait, moi, j'ai adoré parce qu'il y avait des Allemands qui étaient là, parce qu'il y avait plein d'Allemands qui concouraient sur les courses hippiques. Enfin, pas sur les courses hippiques, pardon, qui concouraient sur les épreuves hippiques. Et ces Allemands, ils se sont retrouvés dans la fan zone avec un drapeau français, alors qu'ils avaient leur peinture allemande et tout. Et bien, ces gens-là, ils ont effacé leur peinture allemande. Il y avait un couple de Français qui étaient là, qui nous avaient mis des drapeaux français sur les joues et tout, qui leur ont mis sur les Allemands. Et les Allemands, ils étaient là avec leur drapeau français, avec leur clap-clap français, juste acclamer dès qu'il y avait un Français qui était là. Alors qu'à la base, ils étaient venus avec leur peinture allemande, leur drapeau allemand et tout. Mais juste parce qu'ils étaient dans la fan zone, ils se sont pris en jeu. Et les Allemands, c'est des vrais, vrais, vrais supporters aux épreuves hippiques. Hein. C'est incroyable. Et là, ils ont dit, allez, on se met dans le truc. Ils étaient vraiment dans l'ambiance. C'était exceptionnel.
Génial. C'est désormais la fin de cette table ronde. Donc merci à tous les deux pour cet échange riche et passionnant. Quant à nous, nous retrouvons Malo Bernard, fondateur de l'application Sold Out, le too good du sport, qui va nous donner son éclairage sur le supporterisme et la ferveur durant les JEP de Paris 2024.
Et maintenant, la parole de l'expert.
Donc on vient de parler avec nos deux intervenants du supporterisme, de la ferveur dans les stades durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et maintenant, on se demande qu'en est-il de cette ferveur ? Quel est l'héritage qu'elle a laissé ? Donc je me tourne vers toi, Malo. Tu es étudiant en IUT-GEA. Tu es aussi jeune entrepreneur. Tu as lancé l'application Sold Out, donc le too good du sport. Je vais te laisser te présenter et nous présenter avec tes mots l'application.
Donc je m'appelle Malo Bernard. J'ai 20 ans et je suis étudiant à l'UT d'Angers, comme tu as pu le dire, en BUT-GEA, gestion des entreprises et des administrations. Je viens de terminer la semaine dernière ma licence.
Okay.
Cette année aussi, j'ai pu développer justement mon projet Sold Out dans le cadre des Entrep. Donc, c'est un programme d'aide et d'accompagnement à l'entrepreneuriat au niveau national. L'objectif de Sold Out, c'est vraiment de permettre aux clubs et aux événements sportifs de vendre à la dernière minute leurs places invendues à tarif réduit. En fait, on s'est vraiment inspiré des concepts qui existent dans la culture, avec notamment Shop Ta Place et Ticketnunk.
C'est quoi l'élément déclencheur en fait, de cette aventure entrepreneuriale ? Est-ce qu'il y a vraiment un truc où tu t'es dit, là je vais à cet événement, les stades sont vides et j'ai envie de remédier à ce problème ?
Du coup, moi j'ai eu la chance aussi d'aller aux Jeux Olympiques cet été, notamment à Lille. Et donc là, j'ai vraiment vu une ferveur, des stades pleins, c'était vraiment des émotions incroyables. Et toute la ferveur qu'il y avait autour des JO, c'était vraiment magique. Et moi, ça m'a vraiment touché. J'étais vraiment pris par cette magie-là des Jeux Olympiques. Et j'avais aussi l'ambition de pouvoir perpétuer ça après les JO, dans des stades pleins, et de vraiment surfer, on va dire, sur la vague des JO pour emmener les gens au stade et que les gens continuent d'aller dans les stades, dans les salles, découvrir des sports. Ce qu'on a vu pendant les Jeux Olympiques, il y a plein de personnes qui ont découvert des nouveaux sports et qui se sont passionnées par des athlètes, des histoires qui étaient vraiment géniales. Et donc, c'était l'idée de continuer dans cette optique-là. Et après, ouais, le modèle de Too Good To Go, je trouve vraiment génial dans le contexte économique. Je trouve que c'est des modèles qui sont vraiment hyper intéressants. Donc j'ai voulu reprendre ce modèle-là adapté au sport parce que justement moi, en tant qu'enjoint, quand j'allais au stade, c'était souvent vide et je trouvais ça très triste. Et j'avais ce manque-là d'ambiance, de ferveur, et ça faisait que les matchs étaient moins sympas à regarder. Et il y a aussi une thématique du prix. Des fois, il y a des places qui sont très chères et qui sont vides. Donc j'avais trouvé une opportunité, une fenêtre pour proposer quelque chose au club et aux événements sportifs.
Donc pour toi, cette application, elle vise à résoudre deux problématiques, celle de l'accessibilité à des événements sportifs. Donc parfois, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir se payer effectivement des billets pour accéder à des événements sportifs ou à des compétitions, et également à ce problème de place vide. J'ai vu notamment, enfin, je fais référence à Roland-Garros, qui a une billetterie qui est peu accessible, avec quand même des tarifs assez chers, et pourtant, on remarque qu'il y a plein de places, de sièges qui sont vides durant le tournoi.
Oui, tout à fait. Donc, ouais, on résout deux problèmes. Donc, il y a le fait que les places soient trop chères et vides. Donc, nous, en proposant des offres en dernière minute, avec des petites réductions en partenariat du coup avec les clubs, l'objectif, c'est de rendre plus accessible le sport. C'est aussi de mettre en avant des sports peut-être moins connus ou des événements sportifs qui ont moins de visibilité via notre application. Donc, on résout ces deux problèmes-là. Et concernant Roland-Garros, en fait, il y a deux problèmes types dans le sport et la billetterie. Il y a les places qui sont trop chères et vides grand public. Donc nous, dans un premier temps, l'application va répondre à ce premier problème-là en proposant des places à la dernière minute avec des réductions. Le deuxième problème, c'est les partenaires ou les VIP qui sont invités, qui ont des places, mais qui ne viennent pas. Ça, c'est encore un autre problème. Nous, à terme, dans un second temps, notre objectif, c'est aussi de répondre à ce problème-là en proposant une plateforme pour les clubs, enfin pour les clubs et organisateurs d'événements sportifs, pour qu'ils puissent gérer vraiment à la dernière minute, parce que c'est vraiment, est-ce que les loges, notamment à Roland-Garros, est-ce qu'elles sont vides au début du match? Ah bah oui, bon bah, on met une offre spéciale en dernière minute. Donc ça, à terme, ça sera un autre segment qu'on voudrait adresser avec Sold Out.
Du coup, je me permets de te demander, là, tu es à quelle étape du projet? Est-ce que tu as lancé un premier partenariat, il me semble? Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Tout à fait, ouais. Donc en début mai, on a lancé un premier partenariat avec un club de roller hockey, donc c'est un sport mineur. On a fait un premier test grandeur nature où 48 heures à l'avant, on avait une quinzaine de places à vendre qui étaient restées invendues. Donc on les a toutes vendues en 48 heures. À côté de ça, donc le développement de l'application avance très très bien. On a la maquette qui vient de se finaliser là, la semaine dernière, qu'on est très très content. Et donc là, on rentre en contact avec des clubs, notamment des premiers clubs en Ligue 1, avec okay. Des premiers contacts, donc c'est très très chouette. On va pouvoir leur présenter la maquette, présenter le projet. Et 10 septembre, notamment, de très très belles choses arrivent sur vos téléphones.
Okay, super. Est-ce que du coup, à mesure que tu développes ce projet, tu constates que ces sports qui ont été en vogue pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, tu constates qu'ils sont toujours en vogue ou pas? Il y a un vrai effet post-JOP?
J'ai pu discuter notamment avec un club de tennis de table à côté d'Angers, les Loups d'Angers. C'est vraiment un des top clubs de tennis de table en France. Ils sont juste derrière le club des Frères Lebien de Montpellier. Et eux, ils ont pu vraiment constater un grand nombre de licenciés en plus. Après, en termes de visibilité et de gens qui viennent les voir, qui viennent dans les salles à Angers, ça reste encore très timide. Et donc, il faut continuer cet effort-là pour vraiment surfer sur cette vague-là des Jeux Olympiques et amener les gens dans les salles, même s'il n'y a pas les frères Lebrun qui jouent au tennis de table, et vraiment continuer sur cette lancée.
Très bien. Et tu me disais que tu étais un sportif, un ancien sportif. C'est quoi ton parcours sportif, d'athlète?
Donc, je fais du sport depuis tout petit. Moi, j'ai une famille très, très sportive. J'ai deux parents qui travaillent dans le sport. Ma sœur qui est sportive de haut niveau aussi. Donc, j'ai baigné dans ça depuis tout petit. Moi, j'ai commencé par du foot. J'ai fait 3 ans de foot en tant que gardien de but. Mais je n'étais pas très bon avec mes pieds. Donc, c'était un peu compliqué. Et après, du coup, ça fait une dizaine d'années que je joue au handball. Je joue encore au handball. Okay. Au niveau pré-national, donc le plus haut niveau régional. Voilà, au poste de demi-centre. Donc, c'est un peu le meneur du jeu.
Ok, super. Oui, mais tu baignes dans cet univers de sport. Enfin, ça ne sort pas de nulle part, le projet, ça c'est sûr. On entend beaucoup dire, notamment par de grands sportifs, que la France n'est pas une nation de sport et de sportifs. Toi, c'est quoi ton avis sur cette question? T'en penses quoi?
Moi, je pense qu'en France, on a énormément de ressources humaines. On a des talents exceptionnels. On le voit, on est une des nations où on rayonne dans le plus de sports possible. On est vraiment excellent dans plein de sports collectifs, mais aussi individuels. c'est vraiment génial. Et puis on a des grandes figures, avec notamment Teddy Riner, Léon Marchand, et des équipes de France de handball, de football, de basket, qui sont toujours au très haut niveau. Après, je pense qu'au niveau étatique, il y a vraiment quelque chose à faire pour pousser le sport, notamment comme on peut le voir au modèle, le modèle aux États-Unis avec le modèle universitaire. Je pense qu'il y a plein de choses à faire au niveau étatique pour pousser le sport et les valeurs qu'il y a derrière le sport, l'inclusivité, le partage, le dépassement de soi, le fait d'être en bonne santé. Je pense qu'en France, au niveau étatique, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour pousser le sport au haut niveau. Et donc, je pense qu'il y a plein de choses à faire de ce côté-là.
Oui, donc ça se joue vraiment au niveau de l'éducation. Il faut qu'il y ait plus de... que ça soit plus intégré dans l'éducation des enfants, la pratique sportive. Et au-delà de la performance, comme tu le dis, pour les valeurs que le sport représente. Donc, ouais, je suis assez d'accord avec toi sur ce sujet. Pour toi, c'est quoi les bonnes pratiques pour remplir son enceinte sportive et, à l'inverse, les actions qui sont contre-productives ?
Je pense que, en fait, il y a deux choses pour remplir son stade. Il y a le sportif et l'extra-sportif. Un club, sur sa partie marketing, responsabilité, c'est très difficile de maîtriser la partie sportive et la performance de son équipe. C'est quand même beaucoup plus aléatoire. Par contre, ce qu'un club peut maîtriser, c'est vraiment la partie avant-match, après-match, tout le spectacle et l'entertainment autour d'un événement. Notamment au hockey sur glace, ça se développe de plus en plus avec un show d'avant-match, un show pendant le match, un show d'après-match. Et je pense que les bonnes pratiques, c'est vraiment de créer un univers autour du match. C'est pas seulement je viens à 21h parce qu'il y a le match, je repars à 23h parce que le match est fini. C'est vraiment proposer des activités, des événements, de la restauration avant les matchs pour vraiment créer une ambiance autour d'un match. Et ça donne envie en fait aux gens de venir parce qu'il y a le moment sportif, mais il y a tout ce moment de partage, de convivialité qu'un club peut créer autour de son match, de son événement. Après, je pense qu'il y a des bonnes pratiques, notamment le Brest Handball qui met des tarifications dynamiques. Okay. Donc, il y a plein de nouvelles choses, de nouveaux algorithmes qui permettent de mettre en place des billetteries dynamiques pour répondre aux besoins de billetterie. Après, en termes de mauvaises pratiques, je pense qu'il y a des clubs qui ont du mal à attirer notamment son public et manquent peut-être de communication aussi sur ce qu'ils proposent, ce qu'ils offrent. Et c'est vraiment, moi je trouve, le manque de spectacle et le manque d'animation autour d'un match. C'est vraiment sur ce point-là que les clubs peuvent maîtriser à 100% et qui fait vraiment venir du monde. Notamment à Angers, on a le club des Ducs d'Angers qui est en Ligue Magnus, qui est très bien classé, qui est deuxième à peu près. Juste derrière les brûleurs de loups. Et ils mettent en place vraiment tout un show pendant le match avec beaucoup d'animation, beaucoup de jeux en relation avec le public. Et ça fait vraiment venir les supporters et les patinoires au hockey sur glace sont beaucoup pleines grâce à ce show-là qui est mis en place avant les matchs.
Et je suis dans les dernières questions, mais dans leur organisation et leur communication, est-ce que tu penses qu'il y a certains sports qui devraient s'associer pour partager leur infrastructure notamment et s'aider mutuellement à les remplir? Est-ce que tu as un avis sur comment remplir les infrastructures autres que par exemple ton concept?
Ouais, je pense qu'il y a de très belles opportunités à faire dans le monde du sport. Je pense que pour maximiser les infrastructures qu'on a en France, on a la chance d'en avoir plein, mais les maximiser, ça sera encore mieux. Je pense que oui, il y a plein d'opérations à imaginer en termes notamment de communication et pour donner vraiment envie aux gens de venir, avec peut-être des partenariats entre deux clubs de la même ville, avec des sports différents, mais une offre groupée, je sais pas, un match de foot, un match de basket, un pack qui pourrait aller voir les deux. Je pense qu'il y a plein d'opérations à faire et je pense que plus le sport s'entraide, c'est positif pour tout l'écosystème sportif et au global, c'est que vertueux, je pense, ouais.
Sur une question plus légère, toi, à l'avenir, c'est sur quel sport que tu miserais? Quel sport va péter dans les prochains mois, les prochaines années?
Et du coup, je suis peut-être pas très, très objectif, mais je trouve que le handball a vraiment un côté très spectaculaire. Et je pense qu'il y a énormément de choses à faire autour du handball. Il y a notamment le club du Célessade, je crois que si je ne dis pas de bêtises, mais qui propose vraiment toute une expérience avant, après... Et pendant le match, avec notamment des concerts, ils ont pu avoir Big Flo et Oli, ils ont pu avoir Gazo, et ils sont un club de deuxième division, donc, vraiment un club plus mineur du handball français, mais ils ont un grand stade de 9000 places et ils arrivent justement à remplir ces 9000 places de temps en temps quand ils font des gros événements. Donc je parie sur le handball et c'est notamment ces clubs-là pour qu'ils continuent à développer ce sport spectacle. Et le handball, moi je trouve ça très rapide, je trouve ça très intéressant à regarder. Et après, je parie aussi beaucoup sur les sports américains. Donc le hockey sur glace en France se développe beaucoup, beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui en France, il n'y a aucun sport qui est au niveau du hockey sur glace en France. Parce qu'il y a vraiment un taux de remplissage des patinoires qui est vraiment très élevé, que ce soit du premier au dernier club. Et ça, je pense que c'est vraiment propre au hockey actuellement en France. Je pense que c'est le fait d'avoir vraiment ce sport très spectaculaire avec tout ce choix à l'américaine autour du hockey sur glace. Je pense que ça plaît beaucoup. Je pense que dans d'autres sports, il y a certains plus petits clubs qui ont des initiatives, mais avec une échelle d'une ligue, donc de la Ligue 1 ou de la Ligue 2, je pense qu'il n'y a aucun sport pour l'instant qui arrive à créer vraiment cette effervescence autour de tous ces clubs. Mais il y a des idées qui sont en train d'être mises en place par certains clubs, et je pense que dans les futures années, il y aura de très belles choses à faire en France, mais je pense que le hockey sur glace, ouais, c'est un peu un cas isolé, malheureusement, aujourd'hui en France. Mais je trouve qu'on est dans la bonne direction, ouais.
Si tu peux nous parler un peu des prochaines étapes de ton projet, je ne sais pas si c'est encore secret, tu nous as parlé de septembre, mais notamment, est-ce qu'il y a un projet de développement à l'échelle nationale? C'est quoi la suite?
Tout à fait. Donc là, pendant l'été, on va bosser à fond pour préparer justement le lancement en septembre. Donc en septembre, l'objectif, c'est de lancer au niveau régional. Donc moi, je suis des Pays de la Loire, donc plus Angers et Nantes. Donc on vise ce secteur-là jusqu'à fin 2025 pour faire un premier test. Et après, en 2026, l'objectif, c'est vraiment d'être présent partout en France.
Merci beaucoup, Malo, pour cet échange très enrichissant et intéressant qui va vraiment apporter de la matière à notre émission. Une fois encore, Miromédia a rassemblé aujourd'hui trois acteurs clés autour du supporterisme lors des JOP de Paris 2024. En croisant leurs regards et leur expérience, Nicolas, Cybelle et Malo sont revenus sur l'exceptionnelle ferveur populaire que nous avons connue l'été dernier. Du volontaire au supporter, ils ont vécu ces jeux de l'intérieur et ont accepté de venir nous le raconter, pour que cet héritage immatériel demeure. Un grand merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis sur Miromédia et sur Radio Campus Paris. Et à très vite pour un nouvel épisode.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Il est à retrouver en replay sur radiocampusparis.org.